Je vais parler du sujet du jour par rapport à GTA. J'ai noté quelques oublis. Parce qu'avant GTA 3, eh bien, il faut noter un jeu qui s'appelait Body Harvest, sorti sur Nintendo 64 en 1998, qui a un peu posé les bases du monde bac à sable en 3D, et puis qui a un peu inspiré les équipes de Rockstar pour son GTA 3, sur ce continent-ci.
Rockstar par-ci, Rockstar par-là, c'est génial et tout. Mais les femmes des employés de Rockstar n'avaient pas signé une pétition pour que leurs employés arrêtent de bosser plus de 12 heures par jour. C'était pas un peu esclavagiste, les employés de Rockstar. Allez, ciao.
Salut Fred, salut toute l'équipe. Je viens de me faire une session rattrapage de tout ce que vous avez pu faire dans l'émission. J'ai deux remarques, une sur Mario. Dans le genre souvenir un peu à la con quand j'étais jeune, on jouait sur des jeux solo comme ça avec un copain et on s'échangeait la manette, soit qu'on finisse le niveau, soit que l'un de nous meurt. Et ce petit blagueur, qui s'appelait Vincent à l'époque, me dit « saute dans le trou, il y a un bonus ». Alors moi, comme un idiot, je l'écoute, je saute et il prend la manette en souriant. Voilà. Et puis sinon, bah, pour la Bible, bravo, bien vu, je ne pensais pas que c'était tenable de faire une émission là-dessus. Allez, salut, bonne émission.
To be or not to be, not to be.
Quand j'étais petit, pour regarder La Petite Maison dans la Prairie, c'était pas une question d'avoir Netflix, CanalSat ou OCS. C'était avant tout une histoire de cantine. T'allais à la cantine, tu voyais pas La Petite Maison dans la Prairie. T'allais pas à la cantine, tu voyais La Petite Maison dans la Prairie. Et je me souviens que tous les midis, alors que j'étais en train de manger mes spaghettis, sauce tomate, steak haché acheté chez Norma, car oui, vu que je me faisais à manger tout seul, je mangeais des spaghettis sauce tomate avec des steaks hachés achetés chez Norma tous les jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon corps est une sorte d'arche de Noé remplie de perturbateurs endocriniens. Et bien, tous les jours, je mangeais devant les vicissitudes de la famille Ingalls. Et je crois que c'est ce qui explique en partie le succès de cette série au fil des ans et ma fascination quotidienne vis-à-vis d'elle, c'est combien il était réconfortant de voir une famille galérer encore plus que la tienne. Parce que les Ingalls, ils sont quand même ceinture noire d'emmerdement. Charles, niveau baraka, c'est François Hollande. Il plante un champ de maïs, tu peux être sûr qu'il va y avoir un orage de grêle ou une invasion de sauterelles. Laura, elle va jouer à saute-mouton dans la forêt, elle se fait attaquer par un ours. Marie, elle est devenue aveugle 9 fois dans la série. Albert, il était orphelin, il est tombé dans la drogue, il a chopé une leucémie, ils auraient fait une saison de plus, il se prenait une météorite sur la tronche. Même Carrie, la petite qui dévale la colline dans le générique, eh ben, elle se vautre. Cette série, finalement, c'est regarde les hommes tomber. Et à chaque fois, Charles, il reste zen, il regarde sa femme Caroline au calme et il dit « Ok, on a perdu notre récolte, on a perdu notre maison, nos enfants ont perdu la vue, mais j'ai envie de dire, ça pourrait être pire, j'ai encore mon violon. » Et c'est là que tu te rends compte que Charles Ingalls, il aurait jamais pu être français parce que lui, il se plaint jamais.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Les chevaux sont tranquilles. Ce serait drôlement rafraîchi. Un bon café me fera du bien. L'orage a brusquement cessé. Le blé est fichu. C'est triste, mais il n'y a pas de quoi se lamenter. Après ce qui vient d'arriver, il faut repartir presque à zéro. Ah, une mauvaise récolte, c'est fréquent. Et qu'est-ce que ça représente, hein, une mauvaise récolte dans la vie d'un homme? Rien du tout.
La Petite Maison dans la Prairie est une des séries les plus diffusées et multi-rediffusées au monde. Quand on pense que c'était une des séries préférées de Saddam Hussein, on peut dire que c'est une série qui a touché un public très, 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 très large. Portée devant et derrière la caméra par le charismatique Michael Landon, durant 205 épisodes, les spectateurs du monde entier ont suivi les tribulations de la famille Ingalls, de l'enfance de Laura à sa vie de couple. Pour revenir sur cette série qui constitue, mine de rien, un pan entier de nos vies, j'ai à mes côtés Séverine Barthes, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes critique série, spécialiste des séries télé américaines et françaises. Et également à nos côtés, Camille Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes doctorant et vous préparez une thèse sur les séries série dramatique américaine qui met en scène la famille.
Donc ça tombe bien.
Donc effectivement, il y a un port entier sur La Petite Maison dans la Prairie.
Une grosse partie, oui.
Et également à nos côtés, une voix que les auditeurs de France Inter connaissent, Benoît Lagan. Donc vous êtes journaliste à France Inter, critique série, et vous avez monté un spectacle qui s'appelle Le Compteur Cathodique, où vous parlez justement de très très vieilles séries que vous revisitez à votre sauce.
Oui, notamment La Petite Maison dans la Prairie.
Alors ensemble, on reviendra sur la genèse de la série, ses thèmes, le modèle familial qui nous est présenté, on parlera des différences entre la série et le livre dont elle s'inspire, on évoquera bien évidemment la personnalité plus grande que nature du regretté Michael Landon, et on parlera de son autre série culte, Les Routes du Paradis. Mais pour l'instant, on enfile sa chemise à carreaux, ses bottes et ses bretelles, on monte dans sa carriole et en route pour Walnut Grove.
De toute façon, on comprend rien quand tu parles.
Pourquoi t'as des comptes sur un code, toi? C'est ce que je dis. Bah, t'arrives pas à comprendre ce que je dis. Bah, tu demandes à Diouf, bah, il t'achète un cerveau chez Vitor, voilà.
C'est débile. Si un jour j'ai un cerveau, on pourra même plus parler ensemble.
Oh, arrêtez. Mais t'as la chocolata, là, j'aime même pas tout le clash.
Écris, vous deux, il y a des mecs,
on ça suffit, là. Et la petite maison après, il recommande de rouster.
Un raton laveur adulte est dangereux dans une maison.
Mais s'il grandit avec nous, il sera comme un ami.
Si quelqu'un avait réussi à apprivoiser un raton laveur avant toi, on l'aurait appris depuis longtemps. Alors voilà ce que tu vas faire. Emmène-le dehors, amuse-toi un moment avec lui et laisse-le repartir vivre dans son milieu.
Mais papa, c'est juste un bébé.
Charlinga, ça c'est un bonhomme.
Il
n'a jamais eu peur de prendre une décision pour sa famille. Tiens, bah c'est comme toi, oui. Tu te souviens quand t'as voulu apprendre à coudre? Bah j'ai dit non. Bah Charles aurait fait pareil. Parce que tu sais, Charles.
Je suis désolée.
T'as raison, moi je suis con.
J'aurais jamais cru que papa te dirait non.
Eh oui, La Petite Maison dans la Prairie, la série préférée des Tuches. Alors, justement, parlons de cette série. Quelle est la genèse de La Petite Maison dans la Prairie? Séverine Barthes, j'ai envie de vous poser la question.
La première étape sont les livres. La Petite Maison dans la Prairie, c'est un ensemble de 9 romans autobiographiques, enfin, ou 9, oui, romans autobiographiques, on va dire, écrits par Laura Ingalls, donc la petite fille dans la série et qui grandit, avec l'aide de sa fille, Rose, et qui donc raconte l'histoire de sa famille de pionniers américains qui quittent le Wisconsin et qui alors ont beaucoup plus d'étapes que dans la série. Ils se baladent beaucoup, le Kansas, le Dakota, etc. Et qui s'installent finalement à une ville qui s'appelle non pas Walnut Grove mais Desmet, et qui vivent là. Donc c'est vraiment le point de départ, ce sont ces livres qui sont des classiques de la littérature enfantine.
Oui, c'est les best-sellers, c'est les best-sellers aux États-Unis. Enfin, on les lit, tous les enfants américains lisent ces livres-là. Oui. Et d'ailleurs même la série s'est amusée dans un épisode avec un flash-forward avant qu'il y en ait un, où on voit une gamine courir dans une bibliothèque pour prendre le livre de Laura Ingalls, tellement c'est culte aux États-Unis.
Et alors, livre justement qui a été expurgé de ses scènes les plus choquantes, on l'a découvert il y a relativement peu de temps, parce que la version de base de Laura Ingalls était bien plus dure, et on se rendait compte que la famille Ingalls avait été très très pauvre, elle a même failli être adoptée par une autre famille, tellement ils n'avaient pas d'argent. Donc on était quand même assez loin de ce qui a été ensuite présenté dans la série, non?
Oui, dans le livre, donc il y a effectivement la première édition où Rose, en fait, on suppose que c'est Rose qui a beaucoup réécrit de choses, y compris d'un point de vue politique. Je ne sais pas si on développera
ce point. On peut le faire, c'est intéressant.
Mais donc Rose, la fille de Laura Ingalls, qui est un peu considérée comme la grand-mère du mouvement libertarien aux États-Unis, et qui instille, pense-t-on, des vues un peu politiques, anti-gouvernementales. Le fait que le gouvernement, par exemple dans le Kansas, quand la famille Ingalls s'installe en territoire indien et qu'ils sont ensuite expulsés par le gouvernement, c'est le moment d'un développement un peu politique. Sur le fait que le gouvernement empêche les gens qui veulent s'en sortir, qui veulent faire des choses, qui veulent faire progresser le pays, à tel point d'ailleurs qu'elle a adopté, entre guillemets, Rose, un homme qui s'appelle Roger Lee McBride, qui est un des co-créateurs de La Petite Maison dans la Prairie, parce qu'il a les droits des livres et qui a été, par exemple, un candidat libertarien aux élections présidentielles, je crois, de 76. Mmh. Donc on a vraiment une filiation politique.
Contre l'intervention de l'État.
Oui, au sens large du terme, ouais.
Oui.
C'est un peu le propos Camille de Dupuis. La série, d'ailleurs. C'est de dire que c'est tourné très souvent en dérision, mais le fait que Charles Ingalls... il peut se passer n'importe quoi, il fait tout seul, il a pas besoin ni du gouvernement ni de personne, alors que dans la réalité c'est un peu plus différent, mais bon.
En fait, ce qui est toujours très compliqué quand on regarde La Petite Maison dans la Prairie en France, c'est que on n'a pas toutes ces données là en tête quand on le regarde. Et par exemple, La série est non seulement contre l'État, mais parce qu'elle défend l'idée d'une communauté, elle est finalement en soi communiste, au sens de la communauté chrétienne, c'est-à-dire que les personnes humaines en étant réunis, travaillant ensemble, peuvent ensemble faire le bien. Alors il y a cette dimension-là, mais elle est aussi contre les institutions religieuses. On dit souvent que c'est une série qui est cubénie. Elle est peut-être proche de Dieu, mais elle est contre les institutions que les hommes ont créées pour prendre la parole à la place de Dieu.
Et il y a d'ailleurs aussi toute une logique de l'économie du troc dans la communauté telle qu'elle est présentée dans le livre, je crois, où quand la famille Ingalls arrive sur un territoire, ils échangent leurs chevaux contre des bœufs de labour pour pouvoir justement avoir cultivé une petite parcelle. On est finalement beaucoup plus proche de presque d'un modèle à la Pierre Rabhi.
Mais complètement. Et puis d'ailleurs, la série est clairement anticapitaliste. La série, les livres, mais la série encore plus fort peut-être. C'est lié sans doute aussi au contexte de quand la série arrive dans les années 70, après avec derrière le mouvement hippie, beatnik. Enfin, il y a un philosophe qui est abordé à plusieurs reprises dans la série, qui est Emerson. Et Emerson, c'est typiquement celui qui a pensé le retour à la nature, le fait de voir les marques divines en gros dans la nature. Et la série est nourrie de ça. Ce philosophe est cité, et ce philosophe renaît grâce à d'autres penseurs et d'autres intellectuels américains issus du monde hippie beatnik. Donc c'est une série qui peut se comprendre aussi comme ça.
Et d'ailleurs, il y a un épisode où Laura Ingalls, je crois, se sent très coupable, je ne sais plus pourquoi, mais s'enfuit dans la forêt, elle fait une fugue, et elle reste plusieurs jours dans la forêt, elle rencontre un homme.
Ernest Borgnine, le comédien.
Oui, voilà, et qui est en fait une sorte de on le comprend à la fin de l'épisode, mais une sorte de spoiler, d'allégorie de Dieu. Enfin, c'était oui. Dieu qui serait venu la voir, presque en incarnation des forces de la nature.
Oui, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est certes ce personnage, cet ermite qui est tout en haut de la montagne, mais c'est en fait tout ce que va faire Laura pour grimper sur la colline. Donc c'est le rapport vraiment à la nature. Et d'ailleurs, vous parliez de ce pauvre Albert qui subit quand même tout dans la série jusqu'à mourir à la fin. Oh, spoiler, il finit par mourir. Alors qu'on nous avait dit dans un épisode précédent qu'il devenait docteur. Eh ben non, il va finir par mourir. Et bien, sa mort est mise en scène de la même manière. C'est-à-dire qu'il doit grimper la colline avec sa sœur pour s'approcher de Dieu.
Alors, on va rester dans la campagne parce que on va écouter désormais le groupe de blues rock texan ZZ Top avec leur titre Gimme All Your Loving, sorti en 1983.
You gotta make it hot.
c'était Gimme All Your Loving de ZZ Top.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter.
Tiens, et bon anniversaire, Nelly. C'est notre part à toutes les deux. Et ça, ça vient de moi et Cassie. Je l'ai faite moi-même, mais elle a toujours pas de nom. Allez, venez jouer. Elle l'a à peine regardée. Elle est toute excitée. T'inquiète pas. Allez, viens, on va s'amuser avec eux. Oh, Nelly, montre-leur ton cadeau d'anniversaire, hein, ta belle poupée.
D'accord, mais je vous défends de la toucher. Quand elle est sur le dos, elle est endormie. Et puis, dès qu'elle est debout, elle est réveillée. Sa robe est en vraie soie. Et elle a de vrais jupons avec de vraies dentelles. J'ai dit de ne pas y toucher. Tu l'as déchirée pour m'embêter.
Je te promets que je ne l'ai pas fait exprès.
Tu es jalouse. Tu sais que tu n'en auras jamais d'aussi jolie et tu m'en veux d'en avoir une. J'aurais pas dû t'inviter, ça m'apprendra.
Oh, Nelly, ne parle pas de cette façon.
Je suis désolée, madame. C'est seulement un accident.
Tu devrais essayer d'être moins brutale avec des affaires qui appartiennent aux autres.
Oui, madame.
Je crois qu'il serait plus sage que vous alliez plutôt vous amuser dans le jardin. Ici, il y a trop de choses que vous pourriez abîmer.
Ah, la gentillesse proverbiale de Madame Olson et de sa fille Nelly. Alors Camille Dupuis, historiquement, vous vouliez revenir justement sur la genèse des séries des familles de paysans américains.
En fait, La Petite Maison dans la Prairie n'apparaît évidemment pas par hasard. Elle apparaît à l'automne 74 et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une série qui s'appelle The Waltons qui apparaît 2 ans avant, qui a au moins autant d'impact, si ce n'est plus, que La Petite Maison dans la Prairie, mais qui est complètement inconnue en France pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été diffusée en France. Alors que, pour l'anecdote, j'embraye déjà sur la rubrique chiffres, est-ce que vous savez combien de fois l'épisode pilote de La Petite Maison dans la Prairie est passé à la télévision française depuis 95?
Je le sais évidemment, mais simplement j'aime pas me mettre en avant.
Alors, je vais vous le dire, c'est 36.
Et je le savais.
36 fois en 23 ans. Voilà. Alors que c'est pour ça que voilà, La Petite Maison dans la Prairie, c'est une série qui, pour les Français, est emblématique. Parce que tout le monde, même si les gens n'ont pas vu tous les épisodes, tout le monde a déjà vu un épisode, ou au moins une partie d'épisode. Aux États-Unis, The Waltons a exactement le même aura culturel. À tel point que George Bush, il me semble que c'était quand il était en... George Bush père, quand il était en campagne, disait préférer la famille Walton à la famille Simpson. Voilà. Et son prédécesseur, Ronald Reagan, était lui un grand fan de La Petite Maison dans la Prairie. Ça le rapproche de son grand ami... Saddam Hussein, d'ailleurs.
La différence entre les Waltons et La Petite Maison dans la Prairie, c'est que les Waltons se situent quand même dans le temps un peu plus tard.
Voilà.
On est au moment
dans la Grande Dépression.
La Grande Dépression,
les années 30.
Voilà, avec une famille positive. Et effectivement, La Petite Maison dans la Prairie aura chez nous plus d'impact de fait parce qu'elle a été diffusée, rediffusée, multidiffusée, et je pense qu'aussi parce qu'elle rentrait en contact avec ce qui se passait en France et le fait que en France aussi on était encore beaucoup de familles étaient encore rurales, et que donc il y avait comme une sorte de représentation de la famille rurale à l'écran, alors que les séries françaises, petit à petit, à la fin des années 70 et puis au début des années 80, allaient se centrer sur des univers plus urbains sans doute, et qu'il y a eu ce plaisir aussi de se dire qu'on pouvait se retrouver dans La Petite Maison de la Prairie pour ça.
Alors La Petite Maison de la Prairie, on l'a dit, a été tellement diffusée que mon fils de 7 ans a vu l'épisode que j'avais vu quand j'avais 7 ans, mais Chloé Brassière, la seule membre du fan club non officiel de Nelly Olson, est allée à la rencontre des gens pour voir si eux, ils se souvenaient de La Petite Maison dans la Prairie.
Alors La Petite Maison dans la Prairie, pour moi, c'était les après-midi chauds en été pendant les vacances. Chez mes grands-parents, ils adoraient ça, ils lisaient les bouquins. Voilà, et c'était toujours hyper triste.
Quand je rentrais le midi de l'école pour manger avec ma mère, puis il y avait M6 avec La Petite Maison dans la Prairie. Donc j'ai des souvenirs quand même très lointains. Mais j'ai un épisode qui m'avait traumatisé à l'époque, c'était il y avait un orphelinat et l'orphelinat il prend feu et moi ça m'avait fait peur.
J'ai jamais regardé.
Je sais même pas de quoi ça parle, j'ai juste vu le générique.
Eh ben, La petite maison dans la prairie, ça raconte mon enfance, puisque j'étais une petite fille quand ça passait à la télévision. Donc on regardait ça le dimanche, en règle générale. Et évidemment, ça parle de Laura Ingalls, de Marie, de son papa et sa maman absolument formidables, de Nelly, la sale petite fille qui les embête, qui est riche et qui est blonde avec des petites boucles.
J'ai un peu des images en tête, mais j'ai jamais regardé du tout. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu chiant, un peu. Mais c'est le titre, il me paraît mignon, sympa et tout. Mais après, j'ai vraiment, enfin, je connais pas.
Oui, je regardais un petit peu, mais je crois, mais c'était il y a très longtemps, quand j'étais vraiment tout petit. Et puis, je me souviens d'un moment mythique, c'est quand la gamine, je crois, c'est le générique, elle tombe. Alors ça me faisait mourir de rire. Parce que je pense qu'en vrai, sur le tournage, elle avait vraiment dû se gamer. C'était pas écrit, c'est pas possible. Sur le scénario, ça devait être, elle court dans la prairie, c'est mignon, tout ça, et bim, elle tombe.
Alors je rappelle que pendant encore une semaine, et oui, il ne nous reste plus qu'une semaine, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire La petite maison dans la prairie. Alors ce fameux générique culte, Séverine Barthe, où on voit effectivement Carrie se vautrer, se prendre une énorme gamelle, vous me disiez donc hors antenne qu'effectivement elle était vraiment tombée.
Oui, c'est-à-dire que... Alors donc c'est une jeune enfant, donc comme très souvent dans ces cas-là, on prend des jumeaux ou des jumelles parce que ça permet d'organiser le plan de travail et d'être plus efficace. Et donc la première fait la prise et tombe, ne veut pas recommencer, et sa sœur non plus n'a pas voulu le faire, traumatisée, et donc c'est pour ça qu'elle tombe, qu'elle est la seule à tomber, c'est qu'on n'a pas pu faire une deuxième prise pour avoir une prise normale où juste elle court.
D'où le fait qu'elle s'appelle Lindsay Sidney Greenbush, hein. C'est les deux prénoms. Il y a un seul épisode où on les voit toutes les deux. Et alors celui-ci, il faut le revoir cet épisode, parce que c'est l'épisode où sans doute les scénaristes ont le plus fumé dans l'histoire de la télévision américaine, parce qu'on c'est un rêve de Carrie qui rencontre sa sœur près de Dieu, enfin c'est vraiment du n'importe quoi. Là, si on veut se moquer de La petite maison dans la prairie pour dire que parfois c'était du grand n'importe quoi, il y a cet épisode-là, on le regarde et comme ça on est content, on peut continuer à dire que La petite maison dans la prairie c'est la petite maison dans la niaiserie, comme avaient dit les nuls. Or, quand on regarde les autres épisodes, là on peut voir que non, du tout c'est pas ça.
Et alors j'aimerais qu'on parle de... Le membre fondateur de La petite maison dans la prairie, Michael Landon. Michael Landon, qui était un visage connu des spectateurs américains.
Oui, très connu des téléspectateurs américains au moment où il fait La petite maison dans la prairie, parce qu'il a déjà joué pendant 14 saisons dans Bonanza, qui est un des westerns les plus importants de l'histoire de la télévision américaine. Et même avant Bonanza, il avait déjà une carrière assez importante de ses petits rôles. Vous savez, dans toutes ces séries, on a ces acteurs qu'on reconnaît d'une série à l'autre, et ils ont un rôle un peu secondaire, etc. Je pense qu'avant Bonanza, il a dû en faire au moins une trentaine ou une quarantaine. Dans les westerns très classiques, il a joué dans Au nom de la loi, il a joué dans Track Down, il a joué dans Cheyenne, dans les séries anthologiques aussi du type, alors qu'on connaît peu en France, mais du type La quatrième dimension, où c'est à chaque fois une histoire différente. Aux États-Unis à cette période-là, dans les années 50, il y en avait une multitude, le Ford Theater, Alcoa Theater, Suspicion, etc. Donc il avait aussi beaucoup joué dans ces types de films, et notamment ce qui a un peu décidé, dit-on, le fait qu'il soit casté pour Bonanza, c'est I was a teenage werewolf, j'étais un loup-garou adolescent, où il a le rôle principal et qui le met vraiment sur le devant de la scène.
C'est d'ailleurs, il y a un clin d'œil dans sa deuxième série, je crois, les Routes du Paradis, ouais. La troisième.
Voilà. I was a middle-aged werewolf.
Il se transforme les épisodes d'Halloween où Victor French mange un sandwich préparé par le diable et il a du coup toute une nuit où il voit des cauchemars et Michael Landon qui joue un ange se transforme en loup-garou.
Oui, et cet épisode-là s'appelle I was a middle-aged werewolf, donc j'étais un loup-garou d'un âge moyen.
Ce qui est intéressant avec Michael Landon, c'est que, et beaucoup de comédiens et de comédiennes de la série l'ont raconté, quand ils ont été castés pour La petite maison dans la prairie, leurs parents disaient waouh, mais t'es avec Michael Landon. Enfin, c'est Michael Landon parce que c'était une star en fait, c'était le George Clooney de l'époque, donc tourner avec Michael Landon c'était énorme. Et en fait, Michael Landon, ce qui est intéressant en réalité, c'est qu'il vient d'une famille de d'artiste.
Il a eu une enfance terrible.
Et il a eu une enfance terrible avec une mère catholique irlandaise, un père juif.
Qui tentait de se suicider devant lui.
Oui, et puis en plus, il le prenait à partie dans les repas de famille. Enfin, c'est ce que la légende raconte, mais je pense que c'est vraiment, tous l'ont beaucoup raconté, ses parents parlaient à Michael pendant le repas. Tu diras à ton père que, et la mère, le père disait, tu diras à ta mère. Enfin bon, c'était horrible pour lui. Et ce qui explique en partie La Petite Maison dans la Prairie, et la vision qu'il a apportée à La Petite Maison dans la Prairie, parce que cette famille idéale, s'il s'octroie le rôle de Charles, le rôle du père central, c'est pas pour, comme certains ont pu le dire, pour mettre les femmes plus bactères, parce qu'il fait des femmes les vrais personnages, les vrais personnages centraux de la série.
Il y a d'ailleurs énormément d'épisodes qui prennent fait et cause contre les violences faites aux femmes.
Voilà, donc c'est vraiment une série féministe, mais lui, il incarne le père qu'il aurait aimé avoir, la famille idéale qu'il aurait aimé avoir, et d'ailleurs, dans sa vie privé, il n'a pas eu vraiment la vie idéale qu'il a montrée dans La Petite Maison dans la Prairie.
Camille Dupuis ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que La Petite Maison dans la Prairie, pour Michael London, c'est une aubaine quand ça commence en 74, parce que donc il vient de faire Bonanza pendant 14 ans et qu'il cherche un nouveau projet pour faire quelque chose de complètement autre chose. Et il y a quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure, qui est Roger Lee McBride, qui est le fils adoptif de la fille de Laura Ingalls, qui a les droits des livres, qui les vend à un producteur qui s'appelle Ed Friendly, et qui, c'est lui qui va appeler Michael Landon pour monter ce projet-là, avec quelqu'un dont on parle jamais, et j'aimerais quand même citer son nom, qui s'appelle Blanche Annalise, qui est la scénariste, qui est en fait la vraie créatrice de la série, puisque c'est elle qui a écrit le téléfilm pilote, qui a écrit un petit peu une partie de la Bible de la série, et qui, petite parenthèse, qui a après, à la fin des années 70, a écrit une mini-série qui s'appelle The Young Pioneers, qui est aussi adaptée d'un roman de Rose Wilder Lane, la fille de Laura Ingalls, et qui est produit par le producteur de The Waltons. Donc comme quoi,
voilà, je rappelle à tout le monde que vous pouvez réécouter cette émission en podcast et mettre au ralenti pour essayer de recomprendre et recomposer.
C'est très complexe.
La généalogie qui vient de nous être exposée.
Mais pour revenir,
par rapport à ce que dit Camille, ce qui est important, c'est qu'en fait cette série, dans l'histoire de la télévision américaine, elle reste importante parce que ce fameux Ed Friendly, qui a bien nommé quand même pour produire et défendre la série La Petite Maison dans la Prairie, ce fameux Ed Friendly, il permet finalement à NBC, qui était une chaîne qui fonctionnait plus très très bien à ce moment-là, de reprendre vraiment le devant de la scène.
Vous écoutez France Inter, il est 11h31 et c'est l'heure des chiffres. Oula. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 5, c'est le nombre de téléfilms de La Petite Maison dans la Prairie, le nombre de fois où la famille Ingalls déménage ou le nombre de fois que la série a été diffusée en France.
Non, alors c'est le nombre de fois où ils déménagent.
Benoît Lagan ?
Ouais.
C'est le nombre de fois où
c'est
la famille Ingalls...
C'est eu 4 téléfilms, donc oui. De fait.
Bonne réponse.
Et ça a été diffusé 35 fois depuis... 36 fois depuis 80.
Voilà. Voilà. On va avoir un très beau résultat à ce questionnaire chiffre. Si je vous dis 1868, dans la série, c'est l'année de naissance de Laura Ingalls, l'année durant laquelle Mary Ingalls devient aveugle, ou l'année durant laquelle Mary et Adam se marient.
Oula.
Je pense que, de toute façon, je vais me mouiller, je pense que c'est l'année de naissance de Laura Ingalls.
C'est une bonne réponse, Camille.
C'est une
très bonne réponse. Merci. C'est l'année de naissance de Laura Ingalls, 1868. Yes. Si je vous
67
dis...
en fait. Hein,
non, 1868.
Peut-être que vous avez raison, mais c'est 90 ans.
Ah oui, peut-être. Oui, mais en même temps, j'ai pas envie de vous donner raison. Si je vous dis le chiffre 9, c'est le nombre de livres écrits par Laura Ingalls.
Oui. Bah oui.
Le nombre de membres que contient la famille Ingalls, ou en dizaines l'âge auquel Laura Ingalls débute l'écriture de La Petite Maison dans la Prairie.
Alors non, elle est morte à 90 ans, donc c'est pas le problème. Elle a écrit 9 livres, oui. Sachant que le 10e en fait c'est son journal intime, mais qui a été publié post-mortem par Rose.
Mais la deuxième réponse est exacte aussi.
La deuxième, c'était quoi ?
C'était le nom de membres de la famille. Oui, si on compte les
adoptés.
En fait, vous êtes saint sur noir, troisième dame de Petite Maison dans la Prairie. C'est effectivement le nombre de membres que contient la famille Ingalls. Si je vous donne le chiffre 160... Vous êtes fascinant quand même.
On est timbrés surtout.
Si je vous donne le chiffre 161, c'est le nombre d'épisodes de la série, ou en heure, le temps qu'il faudra aux spectateurs pour regarder tous les épisodes à la suite sans pause.
Oui, parce que 187 épisodes, ça doit faire à peu près ça.
Et puis il y a eu 205 épisodes plus 4 téléfilms.
Oui, donc 161, c'est bien. C'est 161 heures, c'est le temps qu'il vous faudrait pour regarder tous les épisodes à la suite sans pause. Eh bien, vous avez gagné. Voilà, vous avez gagné les Gauloises Bleues de Clou, une une reprise d'Yves Simon tirée de l'album Génération éperdue, sorti cette année.
On fumait des gauloises bleues, les beaux jours. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Petite femme de Paris montait sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'aile, parfois je voyais Verlaine. Ah, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues de Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
C'était les Gauloises bleues chantées par Clou.
Les enfants, il est l'heure d'aller traire les vaches.
Oh papa, je peux venir avec toi?
D'accord.
Bon bah c'est pas tout, moi il faut que j'aille préparer le ragoût de haricots blancs, sinon on sera en retard pour souper. D'accord?
Moi, plus tard, je serai chef d'orchestre.
Eh ben moi, je serai PDGère.
Au fait, Charles, sais-tu que la girafe de Mamadou Yakasumaki va accoucher?
Tu dois confondre, chérie, nous ne sommes pas dans un épisode de Daktari.
Excuse-moi, ça m'a échappé.
Papa,
oui?
Qu'est-ce que je ferai dans 20 ans?
Dans 20 ans, tu passeras pour la première fois sur M6. Et ce sera la sixième fois en 6 ans à la télévision.
Et toi, tu seras toujours aussi beau?
Oui.
Et toi, maman, tu seras toujours aussi belle dans 20 ans?
Et oui, ma chérie.
Regardez, les téléspectateurs zappent. C'est chaque fois la même chose, ils se goinfrent péniblement 3 minutes de générique et après ils se cassent sur les autres chaînes.
Oh, restez avec nous, on a l'air niais comme ça, mais je vous rappelle qu'il faut être drôlement intelligent pour jouer des rôles de con.
Oh, il va se passer plein de trucs, je vais couper du bois.
Et moi, je vais vous montrer ma culotte et mon maman aussi.
Et même ce qu'il y a dedans.
C'était la petite maison dans la niaiserie des nuls. Alors la petite maison dans la prairie, c'est une part d'enfance et on n'a jamais envie d'être celui ou celle qui va cracher sur sa part d'enfance. Heureusement, on est en 2018 et maintenant cracher sur sa part d'enfance, on peut. Et même la petite maison dans la prairie, eh bien, il y a des gens sur cette terre, ils aiment pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Dans la petite maison dans la prairie, la mère Ingalls dit des choses telles que...
The only good Indian
Un bon indien est un indien mort.
La petite maison dans la prairie, ce classique de la littérature enfantine écrit par Laura Ingalls Wilder, est la dernière œuvre en date à se heurter à la révolution culturelle menée par la gauche. L'Association des libraires pour enfants a décidé de renommer le prix Laura Ingalls Wilder. La raison, vous la connaissez, est que la petite maison dans la prairie semblerait promouvoir un certain racisme, sexisme et beaucoup d'autres ismes.
Alors là, je crois qu'il faut vraiment distinguer l'œuvre littéraire La Petite Maison dans la Prairie de la série, parce qu'en fait, dans la série, il y a justement une envie de représentation des Indiens ou même des communautés noires beaucoup plus positive que dans le livre, je crois.
Alors ça dépend, si je peux me permettre, ça dépend parce que dans le pilote, il y a un moment où il y a plusieurs fois où les Indiens arrivent proches de la cabane et il y a... Caroline Ingalls a un rapport avec les Indiens qui est très différent de celui
comme
de son,
dans le livre,
de son mari. Voilà.
Et c'est la mère Ingalls qui a un rapport compliqué avec les Indiens. Et Laura, dans son texte, on voit bien que elle prend plus fait des causes pour les Indiens. Mais c'est ça qui m'agace en fait quand on critique La Petite Maison dans la Prairie, c'est que on a toujours tendance à critiquer La Petite Maison dans la Prairie, de dire que c'est niais, de dire que c'est raciste, de dire que c'est tout ça, et puis d'un autre côté de dire que c'est cubéni. Quand on a une série western comme Deadwood qui est violente, qui est sanglante, qui on dit ça c'est bien, ça montre vraiment ce qu'était l'Ouest. Et quand dans La Petite Maison dans la Prairie, le livre, Laura Ingalls écrit ce que c'était que l'Ouest et le rapport aux Indiens pour sa mère, alors là ça devient raciste. Moi il faut qu'on m'explique, c'est une œuvre qui démontre ce qu'est l'Ouest à cette époque et qui montre par ailleurs une famille de pionniers, une famille de fermiers. Et la série, pour moi la série c'est la même chose, elle a souvent été critiquée, on a souvent dit elle est nulle, on en fait une très bonne caricature, mais à la fois on reste sur cette image de la caricature plutôt que de revoir la série. Moi en fait je suis pas... J'ai adoré La Petite Maison dans la Prairie comme vous, sauf que moi je l'ai vu pendant les vacances de Noël, quand ça commençait à passer, et j'ai ce souvenir-là. Et quand je l'ai revu avec ma fille. Et ce qui m'a étonné, c'est que non seulement ça plaît autant à des enfants d'aujourd'hui qu'à moi, et surtout je l'ai vu en tant qu'adulte. Et là, en tant qu'adulte, j'ai découvert que la série n'était pas niaise du tout, mais qu'elle posait des vraies problématiques. Alors oui, Caroline, elle peut dire ce qu'elle dit dans le pilote. Il n'empêche que Charles Ingalls va aider des Indiens dans un épisode.
Lâchez Camille, il n'a pas voulu vous blesser. il était là gentiment.
Non, mais c'est le respect, on va dire que ça, c'est le respect de la série à l'œuvre. Et ensuite, petit à petit, l'œuvre télévisuelle se détache de l'œuvre littéraire, bien évidemment, et devient une série des années 70 et début 80 qui raconte des problématiques, qui parle du Vietnam, qui parle de plein de thématiques de façon pas du tout niaise du tout.
Et Séverine Barthe, justement, je voulais parler des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. C'est vrai qu'on a souvent qualifié la série de naïve, mais il y a des épisodes d'une violence et d'une noirceur absolument confondante.
Oui, parce que la série, elle doit aussi... C'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé encore, mais c'est un objet industriel. Donc il faut plaire au public, il faut rassembler. À l'époque, on est vraiment dans l'ère des networks, donc il faut avoir le public le plus large. Et donc on ne peut pas sciemment se couper d'une partie du public. Donc il faut plaire aussi bien, en caricaturant, aux femmes qu'aux hommes. Il en faut pour tout le monde. Et donc la noirceur, elle vient aussi remplir cette parole envers un certain type de public. Et donc c'est cet équilibre. Toutes les séries, en fait, sont toujours dans un équilibre entre du conservateur et du progressiste, du larmoyant et du noir, du violent et du plus naïf, parce que le public viendra en fait chercher ce qui l'intéresse précisément et quelque part oubliera le reste. Le biais cognitif, quand on dit beaucoup de gens disent la petite maison dans la prairie, c'est une série nulle, c'est aussi parce qu'ils ont un biais cognitif qui les empêche de voir toutes les choses plus profondes qu'il y a dans la série.
Il y a deux épisodes qui démontrent que la série n'est pas du tout niaise, mais je pourrais en lister d'autres. Il y a un épisode qui s'appelle La Veillée Funèbre, où une femme âgée a peur de mourir avant que ses enfants reviennent, parce qu'ils sont partis, et elle veut les revoir. Donc elle met en scène, avec l'aide de Charles Ingalls, sa propre mort, et se cache sous un voile pour revoir ses enfants le jour de ses fausses obsèques. Si c'était une série niaise, elle ne crée, enfin, et si c'était un truc cubaini, elle n'irait pas jusqu'à imaginer des fausses obsèques. C'est pas possible. Il y a un autre épisode qui s'appelle La Rumeur, où c'est Mary Ingalls qui part enseigner. C'est son premier poste. Elle part enseigner comme maîtresse dans un village reculé. Et c'est un cours contre le radicalisme. C'est-à-dire que là, on se retrouve face à des gens qui disent au nom de Dieu tout et n'importe quoi. Et elle finit par leur démontrer que la personne centrale du village qui dit tout et n'importe quoi au nom de Dieu ne sait pas lire. Et que si on sait lire les textes, alors on peut pas être radicalisé. Et revoir cet épisode, moi je l'ai revu avec ma fille après les attentats, et ben c'était un cours majestueux.
Mais d'ailleurs, c'est une série qui fait souvent l'apologie de l'éducation et de l'accès à l'éducation.
Oui, alors être contre le capitalisme, être pour l'éducation publique, si ça c'est être naïf, alors moi je veux bien être naïf.
Et Camille Dupuis, la représentation de la famille dans La Petite Maison dans la Prairie, parce qu'il y a la famille Ingalls, mais il y a aussi la famille Olson, il y a énormément de familles. Et qu'est-ce qu'on peut retirer comme analyse sociologique de cette représentation?
Alors, sociologique, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue.
Qui m'intéresse, en fait.
Ce qui est intéressant dans La Petite Maison dans la Prairie, c'est que les épisodes sont... Je suis beaucoup moins spécialiste des épisodes que Benoît Lagan qui me regarde, alors je fais attention. Les épisodes sont souvent construits de manière assez similaire, c'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui arrive, soit un personnage, parfois c'est des animaux, on a parlé du raton laveur tout à l'heure, et qui vient déranger le quotidien de la famille Ingalls, et puis à la fin, souvent grâce à Charles, ça s'arrange. La famille Ingalls, c'est un refuge, en fait. C'est un refuge autant symbolique que, enfin, même littéralement, très souvent, par exemple, ne serait-ce que dans la première saison, pour vous donner un exemple, il y a 23 épisodes dans la première saison, il y a plus de la moitié des épisodes, on voit, la première chose qu'on voit dans l'épisode, c'est la maison. Et très souvent, la fin, c'est aussi la même chose. Comme si, il allait se passer des choses à l'extérieur, sait qu'on est parti de la maison, qu'on y reviendra. Et ça c'est un élément très important dans la petite maison dans la prairie.
Et c'est aussi une famille d'accueil, parce qu'il y a énormément d'enfants adoptés qui viennent, qui repartent. Les Ingalls sont une famille qui allait au-delà des liens du sang.
Et les Edwards aussi.
Oui, les Edwards, le fameux Edwards qui apprend à cracher à Laura. D'ailleurs, moi qui rêvais d'être Laura Ingalls quand j'étais gamin.
Mais il y a des airs.
Mais j'ai gardé la barbe de Edwards, en revanche. Je sais toujours pas cracher aussi bien que Laura. Mais l'histoire des adoptions, c'est vraiment du Michael Landon. Parce que Michael Landon, qui s'est marié, divorcé plein de fois, trois fois, a eu plein d'enfants et a beaucoup adopté.
Trois enfants adoptés.
Ouais,
Mélissa Gilbert, qui a perdu son père jeune, a eu une relation particulière avec Michael Landon parce qu'il l'avait un peu adopté, en fait. C'est une vision aussi, c'est très, très autoriste, finalement, de la série.
D'ailleurs, sur le tournage, Michael Landon était très, très paternel, mais dans le bon sens du terme, avec tout le monde. Il y a énormément de témoignages qui disent que les enfants qu'on voyait suivre les cours à l'école de Walnut Grove suivaient véritablement des cours. Il y avait des cours sur le tournage et il était tous les techniciens, tout le monde avait des cadeaux à chaque fin d'année. Et j'ai même appris que quand le budget était excédentaire sur des épisodes, quand il y avait des bénéfices, eh bien il les repartageait équitablement entre chaque membre, chaque technicien du tournage.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu dans l'histoire de Michael Landon, adulte, parce qu'enfant ça a été dur, mais adulte aussi, il était alcoolique, s'il est mort d'un cancer, c'est pas pour rien, il fumait comme un pompier, il buvait beaucoup. Beaucoup ont voulu quand même redire comment il était sur un plateau, parce que certes il buvait sans doute beaucoup, mais beaucoup ont dit non, mais on le voyait pas boire sur, on le voyait fumer sur les plateaux, mais on le voyait pas boire. Et d'ailleurs il a traité beaucoup l'alcoolisme dans la série comme un moyen de dire voilà, je bois peut-être, mais je sais le mal que ça peut faire. Donc c'était un homme qui a été assez positif à ce niveau-là.
Camille Dupuis.
Et il y a le fait que sur le plateau, alors c'est vrai qu'il est très souvent montré sous un jour positif. Il y a aussi des choses un peu moins positives, bien évidemment. Mais il y avait, alors j'ai en tête un titre du magazine TV Guide, qui est une sorte de télé 7 jours américain. Le titre de l'article, c'était Michael Landon must avec le must souligné have control. Donc Michael Landon doit avoir le contrôle. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans sa carrière. C'est d'ailleurs pour ça que quand il faisait Bonanza, il s'est mis à écrire, puis à réaliser, et qu'il a continué à le faire sur La Petite Maison dans la Prairie. Et clairement, Benoît le disait il y a quelques instants, Michael Landon, c'est un auteur, mais un auteur dans le sens de la politique des auteurs comme la Nouvelle Vague en France. C'est la même chose. Et alors, c'est quelque chose... très souvent, on parle par exemple de films d'auteurs ou même de séries d'auteurs. C'est quelque chose qui est très... on prend pas ce terme pour ce qu'il veut vraiment dire. C'est-à-dire que Michael Landon, c'est un auteur. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise vraiment tout son produit.
C'est un côté Frank Capra de la télévision. On a toujours tendance à dire Frank Capra, c'est génial. La Petite Maison dans la Prairie, c'est nul. Et ben La Petite Maison dans la Prairie, c'est à la télévision ce que Capra a fait au cinéma. C'est juste ça.
C'est l'heure du blind test made in Blockbuster.
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Un blind test consacré aux séries sur les familles heureuses américaines. Okay. Parce que le bonheur, c'est bien aussi. Premier extrait. Vous retrouvez le titre de la série et vous marquez un point. Si jamais vous ne le retrouvez pas,
on perd 3 points.
Vous ne perdez rien du tout, sauf mon estime.
Non, je sais pas.
Alors là, on n'a pas le droit à un indice.
Ça passait à M6 aussi. Avec un indien qui avait une belle tête d'américain. Oui, Dr. Queen, femme médecin. Sally, Sally.
Voilà. Donc faut penser à M6 en fait.
Voilà. Pas que. Attention, on est fourbe. Son suivant.
Mais c'est Modern Family.
Modern Family. Oui.
Oui, bah, alors je vous l'accorde aussi, Séverine. Hein, voilà, c'est une bonne réponse collégiale avec Camille Dupuis. Modern Family. Son suivant.
Ils se ressemblent tous en même temps.
C'est ce genre de série où pendant le générique, on se retourne et on se rit. Oh, vous m'avez surpris en train de faire quelque chose que je faisais semblant de faire.
Alors là, je sèche complètement.
C'est une famille.
Ouais.
C'est une famille. Oui, c'est une famille. Voilà, ouais. Famille de pasteurs.
Ah, mais c'est à la maison.
C'est à la maison.
Ah ouais, mais alors ça, c'est, j'ai vite abandonné. Hein, parce que ça, pour le coup, c'est très cubénien.
Ah bah oui, mais c'est une série d'ailleurs dans laquelle je crois a débuté Jessica Biel. Qui me faisait
alors
pas
là,
penser
pour le coup,
à
très
Jésus
républicaine comme
série.
Très républicaine.
Son suivant.
Malcolm.
Super. Moi j'aime beaucoup le flegme de Camille. C'est Malcolm, voyons.
Bien évidemment.
Ah oui, Malcolm, une des séries les plus brillantes de ces dernières années. Son suivant.
Happy Days.
Évidemment, Happy Days avec Fonzie.
Avec Ron Howard qui a commencé.
Ah oui, Ron Howard. Oui, effectivement.
Avant de réaliser Solo.
D'ailleurs on n'a pas parlé du nombre d'acteurs qui sont apparus dans La Petite Maison dans la Prairie. C'est un des premiers rôles de Sean Penn.
Et alors il y a un truc qu'on sait pas souvent, mais il y a quand même le chanteur de country,
Johnny Cash
qui est dans un épisode et qui chante avec auprès de Marie Ingalls.
Et puis Chanel Doherty.
Mais lui il commence pas parce que sa carrière était bien.
Et c'est et puis il y en a d'autres encore qui sont passés par là.
Ah, et le dernier. Non, pas les Cosby. On aurait pu choisir les Cosby, mais on a décidé de le censurer parce que
Nounou d'enfer.
Oui, voilà. Très bon. Mais Camille Dupuis, il avait une chaîne. Il avait M6.
Il se trouve qu'en plus, je ne regardais pas la télé quand j'étais enfant.
C'est vrai ?
Non.
Voilà, c'est pour ça qu'après
pas les séries.
C'est pour ça que vous êtes devenu doctorant
voilà,
et tout ça.
Exactement. Exactement.
Eh bien, écoutez, vous avez gagné une chanson. On écoute le chanteur, guitariste et batteur américain Ty Segall avec son morceau Funny Dog. Je rappelle que la programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Valentin Azan-Zelinski et Clément Berman. Cette émission est réalisée par la brillante Céline Ella, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castelot.
Fanny knows what the game is.
C'était Ty Segall avec Fanny Dog dans Blockbuster sur France Inter. Alors on arrive au terme de cette émission et j'aimerais qu'on parle quand même de la fin. Hein. Alors la méga spoiler de La Petite Maison dans la Prairie, parce qu'il y a un promoteur immobilier qui veut racheter oui. Walnut Grove et il y a quand même cette scène incroyable où ils font exploser absolument tout le village.
Oui, en fait, le promoteur a racheté les terres et en gros, il veut récupérer, il rachète les terres, il veut exproprier et les villageois décident que non, peut-être qu'ils auront leurs terres, mais ils n'auront pas leur maison. Et donc, du coup, ils décident de faire tout exploser. Alors, il y a une histoire industrielle aussi, c'est qu'ils voulaient rendre le décor naturel comme il était avant l'installation des décors de la série. Mais c'est surtout, moi, je trouve, la bonne conclusion quand on parle des bonnes fins de série, c'est une bonne fin de série parce que c'est cette fin de série qui démontre ce qu'a été La Petite Maison dans la Prairie tout au long de ces 9 saisons et de ces 209 épisodes si on compte les téléfilms. C'est une série qui a toujours montré des petits paysans s'opposant au capital. Et là, pour le coup, c'était ce que démontre le final. Et c'est dans le film Merci Patron de François Ruffin qu'il y a des témoins qui le racontent, ça, justement. Ils l'ont bien compris.
D'accord. Donc effectivement, il y a quand même un message anticapitaliste très très fort dans La Petite Maison dans la Prairie.
Complètement.
Et d'ailleurs, message anticapitaliste qu'on retrouve aussi dans l'autre série de Michael Landon, Les Routes du Paradis, où il y a un épisode où il fait une accusation, mais d'une violence incroyable, très écologiste et très en avant sur son temps, vis-à-vis du président des États-Unis et les lobbies industriels.
Mais là, c'est typiquement Michael Landon et c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins fin que dans La Petite Maison dans la Prairie, mais c'est parce que c'est vraiment Michael Landon opposé à Reagan. Enfin, moi, je l'analyse comme ça, qui prend vraiment la parole avec Les Routes du Paradis.
Eh ben écoutez, je vous remercie tous et toutes pour cette émission. C'est la fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages au 01 56 40 30 20. 01 56 40 30 20. Mardi dernier, on a parlé de Stephen King. Il me semblait normal de terminer la semaine en parlant de Queen. Mais tout de suite, donc demain on parlera de Queen, mais tout de suite, dans le débat de midi, de quoi va-t-on parler, Dorothée Barba ?
Bonjour à tous. Alors, je vais poser une question qui va faire hurler les amateurs de science-fiction dont vous faites partie, Frédéric Sigrist. Est-ce qu'il est bien raisonnable de continuer à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace ? Les robots sont bien plus efficaces, ça coûte moins cher, c'est moins dangereux. C'est vrai que ça fait moins rêver, mais à un moment donné, il faut poser les questions, vous voyez.
Je suis assez d'accord avec
les
ça.
Les auditeurs... Ah, c'est vrai ?
Moi, je suis assez d'accord.
Ah oui, je pensais que en tant que téléspectateur de film 2001 Odyssée de l'espace, c'est dans votre top 10, non ?
Oui.
Bon, voilà.
Eh ben merci Dorothée.
Et c'est la machine qui gagne. Les auditeurs nous écrivent franceinter.fr, la rubrique Le débat de midi. À tout à l'heure.
Merci Dorothée Barba.
Alors maintenant, au travail. Je veux que vos chaussures soient bien cirées et claquantes.
Comme la surface d'un lac.
Comme un sourire du dimanche.